nous accueillons Daniel Cohen. Bonjour, vous êtes économiste, Daniel Cohen, vous dirigez le département d'économie de l'École normale supérieure, vous avez participé à la fondation de l'École d'économie de Paris, vous êtes directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications, et votre dernier livre s'intitule « Le monde éclos et le désir infini », et puisque vous parlez de désir infini, il y a un désir infini en matière de smartphone, de téléphone portable, et c'est justement le sujet du Superfell de la semaine, un Superfell qui résonne tout d'abord ainsi. Et oui, l'émission en podcast natif de France Culture porte sur Nokia, car cette sonnerie, vous l'avez reconnue, c'est le souvenir du quasi-monopole de Nokia sur le marché des téléphones portables. Nokia, ou le drame du marketing, autrement dit faire des téléphones pour chaque segment de clientèle, quand une marque va finir par rafler une bonne partie de ce marché, en le modifiant d'ailleurs de fond en comble. Cette marque, évidemment, c'est Apple. Comment Nokia a perdu le monopole sur le téléphone portable? C'est le Superfell de la semaine, à retrouver donc en podcast et sur le site de France Culture, franceculture.fr, avec une réaction peut-être, Daniel Cohen.
Oui, il y a eu dans les années 90 beaucoup de prétendants à l'hégémonie dans le monde nouveau des télécommunications et de l'information. Il y a Nokia, on se souvient aussi de BlackBerry, il y avait AltaVista qui était l'ancêtre de Google, et tout ça a été balayé par ceux qu'on appelle maintenant les GAFA. On est dans un monde où, comme on dit, le winner takes all, c'est-à-dire le vainqueur prend tout, celui qui a une avance technologique dans un monde à rendement d'échelle croissant, c'est-à-dire que si je suis en avance, je peux créer un mécanisme cumulatif, ce qui fait que cette avance me permet de distancer toujours davantage le numéro 2 ou le numéro 3, et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de stabilisé, on pourra avoir cette même discussion dans 10 ans, je suis presque sûr que les GAFA seront toujours là, parce que ils ont créé la différence dans ce moment un peu embryonnaire des années 90. C'est inquiétant, évidemment, parce qu'avoir le monopole du monde numérique dans les mains de 3 ou 4 groupes, ça pose des questions de même nature d'ailleurs que celles que les grands monopoles au début du XXe siècle avaient fait apparaître et qu'il devra bien falloir réguler un jour ou l'autre.
Bon, j'espère qu'on l'aura dans 10 ans, Daniel Cohen, ouais. Cette discussion. Mais en attendant, vous êtes sûr que ce monopole de Google, d'Amazon, de Facebook ne peut pas être challengé, comme on dit, ne peut pas être ébranlé?
Il peut l'être, mais là, je crois vraiment que les instances de régulation doivent s'en occuper. Au début du XXe siècle, je disais tout à l'heure, il y avait la Standard & Oil qui avait une espèce d'écrasant monopole. Il y avait tous les grands groupes, au fond, qui ont commencé à exister au XXe siècle et qui sont toujours là à la fin du XXe, qui ont dû être régulés. Il y a un moment charnière, je crois qu'on l'a atteint, où le monopole devient cumulatif. Et c'est là que les instances de régulation doivent apparaître. Par exemple, Facebook, on l'a laissé racheter, Instagram, WhatsApp. Ça veut dire qu'on les laisse aussi racheter leurs concurrents. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a un concurrent qui se dessine, ils le rachètent parce qu'ils ont une telle force de frappe financière qu'ils l'intègrent dans leur propre fonctionnalité, ce qui fait que leur monopole devient presque mathématiquement incontestable puisque les contestataires sont rachetés. Donc, il y a quelque chose là, aujourd'hui, je crois, de nouveau par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans encore, qui exige l'attention de la régulation. Mais c'est vrai qu'au départ, Nokia était finlandais, BlackBerry était canadien, si je ne m'abuse. Donc il y avait quelque chose comme une effervescence à laquelle tout le monde contribuait. Et puis la messe est dite, je crois, encore une fois, la fête est finie. Il faut maintenant réfléchir sérieusement au monde numérique qu'on veut organiser pour en faire un monde libre d'accès, autant qu'il est possible. Il ne faut pas retirer le bénéfice des grands groupes dans la mesure où ça permet des innovations. Mais à partir du moment où ces innovations servent surtout à bloquer les concurrents, il y a quelque chose qui se passe où, encore une fois, je crois, le régulateur doit intervenir.
Ça, c'est pour le monde numérique qui est en ébullition. Il y a aussi le monde démocratique qui est en ébullition. On parle beaucoup de la formation du gouvernement italien, de cette alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. On a parlé également de la Slovénie dans les informations, mais le pays aujourd'hui qui compte et dont la politique économique pourrait avoir des conséquences sur la zone euro, c'est tout d'abord l'Italie. Daniel Cohen, avec votre point de vue sur la manière dont cette politique se dessine et les conséquences qu'elle pourrait avoir.
Ben, je crois que c'est quelque chose de décisif. D'une certaine manière, c'est un peu la mère de toutes les batailles pour l'Europe. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, les crises de 2011, si vous vous souvenez, lorsque Sarkozy et Merkel avaient quelque sorte sorti du gouvernement, à la fois en Grèce, Papandréou, et en Italie quelques semaines plus tard, Berlusconi au célèbre sommet de Cannes, pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, il y a un retour d'ascenseur, c'est-à-dire les Italiens qu'on avait privés au début de la crise de Berlusconi, aujourd'hui vont un cran plus loin dans la protestation, et c'est presque paradoxal puisqu'on regrette maintenant que Berlusconi ne fasse pas partie du pouvoir, parce qu'on se dit qu'il aurait été peut-être une force de rappel. Donc on a aujourd'hui quelque chose d'explosif, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est l'alliance de deux radicalités. On fait parfois le parallèle, je pense qu'il est en un certain sens faux, mais il est tout de même utile à entendre. On fait le parallèle avec ce qui en France aurait pu être une alliance entre Le Pen et Mélenchon, c'est deux radicalités, chacun dans un genre très différent, qui s'allieraient au pouvoir.
Le programme du mouvement 5 étoiles est très différent de celui de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, il a le revenu universel, qui était de Benoît Hamon. Il a le retour à la retraite à 60 ans, qui était, je crois, dans les propositions de Mélenchon aussi. L'ordre de grandeur des dépenses n'est pas très éloigné, 4-5 points de PIB, de ce que Mélenchon avait mis dans son propre programme. Donc, il y a quelque chose de cette nature en économie qui ressemble à ce que, je pense, une équipe dirigée par Mélenchon aurait pu faire.
La fiscalité est différente.
J'y viens, c'est le point très important. Mais, je crois, écarter quand même ce parallélisme, 5 étoiles a signé un accord de gouvernement qui prévoit de remettre à la mer, en quelque sorte, c'est la formule qui a été utilisée par la Ligue, 500 000 migrants. Je pense que jamais Mélenchon et ses électeurs n'auraient adhéré à un programme de cette nature. Donc, il faut faire très très attention dans les comparaisons, et je pense que d'une certaine manière ça ne se produira pas en France. Mais ça donne une idée tout de même de ce qui est en train de se passer. C'est deux cultures différentes, en fait, celle du Nord et celle du Sud, qui se sont alliées l'une à l'autre. Alors, quand on ajoute ces deux cultures, on a quelque chose d'explosif. Bon, d'abord par rapport aux migrants, une radicalité folle dans ce qui est en train de se mettre en œuvre, et de penser que c'est Salvini, le patron de la Ligue, qui est le plus xénophobe de tous, qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, ça fait juste frémir, même si il renvoie à l'Europe aussi un miroir de ce que l'Europe n'a pas fait. Donc il y a aussi une histoire à retracer. Mais c'est juste tout à fait effrayant. Maintenant, la Ligue, qui vient du Nord, veut des baisses d'impôts. Et vous avez tout à fait raison de rappeler que ça ferait une différence avec un gouvernement Mélenchon. Donc, il veut une baisse d'impôts, ce qui, en soi, si je comprends les ordres de grandeur, signifierait une augmentation du déficit de presque 2 points de PIB, ramener la fiscalité à 15%, disons, en gros, il y aurait deux tranches 15 et 20 au lieu de 20 et 43 comme aujourd'hui. Donc, presque une réduction de moitié de la fiscalité. Et de l'autre, le programme de 5 étoiles qui, elle, augmente les dépenses. Donc, on peut baisser la fiscalité ou augmenter les dépenses, mais quand on fait les deux à la fois, ça devient explosif. Et c'est surtout ce facteur.
Qu'est-ce que ça veut dire, explosif?
Explosif, ça veut dire que le déficit italien qui est à 2% pourrait passer à 7%.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec
un
déficit de 7%?
Bon, je crois que c'est assez simple à raconter. Quand on a un déficit de 5% de plus, qu'on est gouverné par une coalition instable, c'est le point que je voulais juste rajouter, c'est-à-dire que chacun va vouloir montrer à son opinion publique que c'est lui qui ne lâche pas, que c'est lui qui, dans la tempête, continue d'affronter les vents inverses, alors il n'y aura pas de rationalité, il y aura une surenchère. Et donc, on aura quelque chose comme un cheval fou qui avancera, encore une fois, sans cohérence nécessaire, puisque chacun voudra faire valoir sa partie du programme. Donc ce qui peut se passer, c'est très simple, ce qui peut se passer, c'est que avec une dette à 130% du PIB de 2300 milliards, l'Italie, un jour n'arrivera pas à se refinancer, c'est-à-dire il y aura une adjudication d'emprunt d'État qui ne se fera pas, donc il y aura une crise financière, et comme c'est sur fond de provocation vis-à-vis de l'Europe, puisque là, volontairement, on s'écarte du cadre de l'Europe, Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, je pense, sera dans l'impossibilité d'agir. Il est italien, déjà, ça sera très très bizarre. Les Allemands seront déchaînés, donc il ne pourra pas agir. Contrairement, par exemple, à ce qui s'était passé en Grèce. En Grèce, le système...
Quel ordre de grandeur pour la Grèce, par rapport aux 2300 milliards
c'est beaucoup moins. La Grèce, on est sur une dette de l'ordre de 200 milliards. On est dans un rapport de 1 à 10. C'est pas du tout la même chose. Mais lorsque il y avait une panique en Grèce sur les déposants grecs qui avaient quitté le système bancaire pour aller se réfugier en Allemagne, la Banque Centrale avait réalimenté, un pour un, en liquidité, les banques grecques pour éviter justement la panique la crise. Là, je vois pas comment ça va pouvoir se faire. La dette, si elle est attaquée et menacée, je ne vois pas la Banque Centrale Européenne continuer son programme de rachat de dette, alors même qu'on sort des clous. Bon, c'est possible, mais il faudrait une espèce de courage vaillant incroyable à Draghi pour l'imposer. Donc, on peut aller vers une crise financière.
Vous dites que politiquement, ce serait compliqué, Daniel Cohen. Économiquement, ce serait compliqué ou impossible ? Un défaut de l'Italie.
Rien n'est impossible. On peut imaginer que, au bout du compte, un compromis s'installe, que certaines mesures soient différées. Franchement, je ne sais pas. Mon scénario le plus probable, c'est qu'on aille vers le clash. Pas tout de suite, parce qu'il va falloir du temps. Les marchés se sont beaucoup agités. La dette italienne est beaucoup plus chère aujourd'hui à refinancer qu'avant, mais beaucoup plus chère, ça reste 3%. Donc ça n'est pas non plus la fin du monde pour l'instant. Donc il faut voir. Mais je pense que s'ils persévèrent dans le programme qu'ils ont mis en place, et encore une fois, la principale faiblesse de ce programme, c'est que c'est l'adjonction de deux programmes contradictoires entre eux. C'est augmenter les dépenses, c'est possible, si on est prêt à augmenter les impôts. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand sorcier pour dire ça. On peut baisser les impôts, mais à condition de faire des économies sur les dépenses. Quand on fait la somme des deux, et qu'on est dans une rivalité entre ces deux groupes, je ne vois pas comment, lorsque la crise financière viendra, si elle vient, on pourra revenir en arrière. Et à ce moment-là, il faut prévoir un scénario de crise financière et pourquoi pas de sortie de la zone euro, de l'Italie. Et à ce moment-là, on rentre dans un processus d'une ampleur incroyable.
Alors attendez, parce que avant cela, je vais essayer de défendre le nouveau gouvernement italien Daniel Cohen. S'il y a par exemple un afflux d'entreprises, puisque cela consiste à faire du dumping fiscal, s'il y a effectivement un effet de relance important de la baisse de cette fiscalité, est-ce que ça ne pourrait pas faire en sorte que finalement cette mesure qui vous paraît risquée soit une véritable aubaine pour l'Italie ?
Enfin, je n'y crois pas. Franchement, il y a une telle méfiance aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se produire qu'aller investir en euros en Italie aujourd'hui, il faudrait être fou en réalité. Non, l'attentisme sera la règle, quels que soient les effets que vous dites. Est-ce que j'investis cette année ou l'année prochaine ? Je vais attendre l'année prochaine, franchement, pour voir si dans un an, je vais pas me retrouver payé en lire italienne qui vaudra la moitié de la valeur à laquelle je l'ai acquise. Donc je crois qu'on va être, pour les investisseurs, c'est un poids. Regardez même le Brexit qui est d'une ampleur infiniment moindre, c'est rien.
Pourquoi
du tout.
Pourquoi infiniment moindre?
Parce qu'ils ne sont pas dans la zone euro, parce qu'en réalité, il n'y a pas du tout les règles, les déséquilibres financiers, le risque d'une panique financière comme celle qu'on pourrait avoir. Là, on peut avoir quelques banques qui feront faillite s'il y a une panique des déposants. Enfin, le mécanisme essentiel qui s'est produit dans les années 30, c'était une panique des déposants. En fait, on a beaucoup parlé du commerce international, etc., qui a joué son rôle. Mais le grand phénomène, en tout cas, c'est ce que pensent les économistes aujourd'hui de cette séquence, c'est panique des déposants et une Banque centrale à l'époque qui n'a pas réagi parce qu'elle n'a pas considéré que ça faisait partie de son mandat. Là, on a quand même gagné quelque chose avec toutes les crises qui se sont accumulées. La Banque centrale comprend qu'elle a une responsabilité. Mais vu les tensions que ce gouvernement italien va créer avec l'Europe, ça rendra très difficile, encore une fois, à la Banque Centrale Européenne d'intervenir, à supposer qu'elle le souhaite. Et donc, on va voir ça, et les investisseurs le sauront. Donc, il va y avoir un conflit. Encore une fois, j'insiste sur ce point. Prenons ce qui s'est passé en Grèce. Tsipras vient avec un programme qui était en quelque sorte en contradiction avec l'Union Européenne. Il aurait pu sortir de l'euro, il aurait pu construire un plan alternatif, mais j'ai envie de dire, il était aux commandes, il y avait un parti, il y avait un premier ministre, il y avait une cohérence, on aurait pu faire d'autres choix, mais il y avait une cohérence, une rationalité qui fait que finalement il a décidé de rester dans la zone euro après plusieurs hésitations, mais on avait quand même le sentiment le pays était gouverné. Enfin, on avait tout à fait le sentiment que le pays était gouverné. Là, c'est encore une fois très différent. La Ligue parle très haut, mais c'est 5 étoiles qui a gagné les élections, qui a fait presque 30%. La Ligue a fait 17%. Donc, elle se sent très fort parce qu'il y a eu un sondage qui a été produit lorsqu'on a pensé qu'il y aurait de nouvelles élections et que le président de la République italienne allait appeler un économiste du FMI. Bon, ce qui est une folie furieuse dans le contexte de l'Italie d'aujourd'hui.
Une provocation?
C'est une provocation absolue. Enfin, c'est même de la bêtise. C'est même pas de la provocation. La provocation, c'est, on pense au coup d'après, là, c'était complètement ridicule, ça n'a pas tenu plus de 24 heures. Mais à ce moment-là, il y a des sondages qui sont sortis qui montraient que la Ligue passait en tête. Mais c'est seulement sur la foi de ce sondage que la Ligue se sent très forte. Donc je ne vois pas 5 étoiles se coucher pour dire, bon voilà, c'est vous le chef naturel et nous, on est des alliés. Dans leur esprit, c'est eux qui ont gagné les élections. Il était d'ailleurs question qu'ils s'allient au mouvement démocrate de Renzi. Donc tout ça va créer des tensions. Je ne vois pas cet attelage faire preuve de rationalité collective face à une crise qui est encore une fois, je crois, aux portes du pays.
Daniel Cohen, vous dites que dans les années 30, c'est la panique des épargnants qui a précipité la crise. Là, peut-on imaginer une panique des épargnants italiens, alors même qu'ils ont choisi ce gouvernement, une coalition, et vous le dites d'ailleurs, les derniers sondages n'ont pas du tout modifié le vote des Italiens, ou en tout cas leurs intentions de vote.
Oui, mais c'est des choses différentes. Je peux voter pour un gouvernement, et puis quand je comprends que la banque où j'ai mis toutes mes économies, l'argent de toute ma vie est menacée d'une crise, je choisis rationnellement, individuellement, de sortir de cette banque. Il y a une différence entre la rationalité individuelle et la rationalité collective, et dans les crises financières, c'est vraiment cet écart entre les deux qui se joue. C'est un exemple. Et puis, même si le commissaire allemand l'a dit de la manière la plus stupide qui soit, le jour où les marchés financiers auront peur de l'Italie, ça commence à venir, encore une fois, on n'a pas encore passé le point critique de défiance, ça a beaucoup monté en tension, mais on est encore du bon côté de l'équation. Vu la dette italienne, les quantités de refinancement qui vont être nécessaires pour simplement la renouveler, même pas l'augmenter, on peut tout à fait se retrouver dans une situation de crise. Alors, la crise, après, le problème des crises financières, c'est qu'elles deviennent très vite autocatalytiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le sentiment que la crise a commencé et qu'on ne voit pas, que ce soit au niveau encore une fois, de la Banque Centrale Européenne et ou du gouvernement des forces de rappel, la dynamique peut très vite devenir explosive. Voilà. Et donc, on a deux pouvoirs divisés, je le résume et je le répète de cette manière-là. À la fois en Italie, c'est ce que j'ai dit de cette alliance contre nature, malgré tout, entre deux mouvements qui vont dans des directions différentes du point de vue de leur philosophie sociale, pour le dire rapidement. Et puis de l'autre côté, le pouvoir en Europe aussi est divisé. Au sein de la Banque centrale, il est divisé. Mario Draghi, qui a tout fait pour sauver, enfin qui a beaucoup fait pour sauver la zone euro, va quitter son mandat l'année prochaine. Donc on va rentrer dans une période
d'incertitude. Quelles pourraient être justement les conséquences de ce changement de mandat ?
Le président de la Banque centrale allemande, Jan Weidmann, est sur les starting blocks pour remplacer Draghi. Et lui, depuis le départ, il est contre cette politique qu'on appelle de quantitative easing, c'est-à-dire de grand laxisme monétaire qui a conduit Draghi pour apaiser la crise née en 2011 du premier épisode dont je parlais avec Berlusconi, avait décidé d'intervenir massivement au cours de l'été 2012 pour acheter les dettes, pour apaiser les tensions sur les marchés financiers. Il n'a plus la possibilité, je crois, dans cette dernière année de mandat de le faire. Les Allemands, quand il avait commencé cette politique, le chef économique allemand de la Banque Centrale Européenne avait démissionné. Lorsque M. Trichet, 2 ans plus tôt, avait mené une politique beaucoup plus modérée de rachat de la dette grecque, en l'occurrence sur les marchés, c'était le président de la Bundesbank, Axel Weber, qui avait lui aussi démissionné. Donc depuis le départ, la Banque Centrale Allemande est opposée à ces politiques-là. Aujourd'hui, avec ce gouvernement, elle va dire, vous voyez, on avait raison, on ne peut pas faire confiance à ces pays du Sud. Dans la première version, si vous vous souvenez aussi du programme, il était question de répudier, du programme des deux, de la Ligue et de 5 étoiles, il avait été question de répudier la dette qui avait été achetée par la Banque Centrale Européenne de 250 milliards. Donc tout ça ne va pas créer un climat de confiance.
Daniel Cohen, vous êtes économiste, vous dirigez le département d'économie de l'École Normale Supérieure. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va parler de la situation économique en France et des conséquences de la politique économique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement.